messieurs, dames, bonsoir et bienvenue chez Mola. Merci d'être venus aussi nombreux donc, pour la présentation du livre de Florence Barutel, Au fil de l'histoire des musées de Bordeaux, des premiers antiques au musée d'Aquitaine. Simplement, moi, ce que je voulais dire en introduction, c'est que c'est un livre qui m'a beaucoup épaté. Ça fait longtemps que je sais que Florence, évidemment, travaille là-dessus. Mais ce n'est pas la première qui a essayé de s'attaquer à l'histoire des musées de Bordeaux. Et jusqu'à maintenant, bien qu'il y ait eu des gens et des intellectuels nombreux qui sont passés au musée d'Aquitaine, personne n'avait réussi à faire ce livre. Et probablement, moi-même, je m'y étais un peu attelé d'ailleurs, mais plus pour des articles. Mais il y a eu aussi très peu d'articles, simplement parce que cette histoire des musées de Bordeaux, à mon avis, est extrêmement complexe. Et je pensais bien qu'elle aurait beaucoup de mal. Je n'étais pas tout à fait convaincu qu'elle y arriverait. Donc ça, c'est la première chose qui m'a étonné. Et la deuxième chose, tout aussi importante, c'est que dès le début, elle a associé son travail de recherche en archives ou d'enquête auprès des anciens du musée avec une recherche iconographique importante. Et donc, elle a décidé dès le début que ça serait un beau livre, donc un livre d'art. Alors là aussi, j'étais pas du tout convaincu de ça, dans la mesure où faire des beaux livres d'art aujourd'hui, ça coûte très cher, et que j'étais sûr, je lui avais dit qu'elle ne trouverait pas d'éditeur pour faire un beau livre. Je lui avais personnellement conseillé de ne faire qu'un livre de texte et pas un livre avec des photos. Et elle a trouvé un éditeur. Alors malheureusement, il n'est pas là aujourd'hui, c'est Bernard Larieux, les éditions de l'Entre-deux-Mers. Il n'est pas là parce que je crois qu'il prépare le salon du livre de Blaye. Voilà.
Oui, donc, il est surtout, il organise le colloque du CLEM qui dure 3 jours. Donc.
Voilà, donc c'est pour ça qu'il n'est pas là, mais en tout cas, je voulais saluer son courage parce que non seulement il l'a fait, mais en plus, et ça je tiens à le préciser, il l'a fait sans aucun soutien institutionnel. C'est-à-dire que contrairement à beaucoup de livres qui sortent aujourd'hui autour des musées et qui sont généralement soutenus et financés par des aides à l'édition et par les collectivités territoriales, celui-ci n'a bénéficié d'aucune subvention. La seule aide qu'on lui ait donnée, c'est que, et ce qui me paraît le minimum, c'est que les institutions patrimoniales de la ville n'ont pas fait payer les droits, puisque c'est quand même leur histoire qui est présentée là. Donc la seule gratuité dont il a bénéficié, c'est les droits sur les images. Et pour le reste, il a tout fait. Donc c'est quand même pour moi un bel exploit d'avoir réussi ce travail qu'on doit à Florence. Mais Jean Dicazo, je vous laisse la parole.
Déjà ?
Eh oui.
Déjà. Déjà. Eh bien, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, cher ami. Et, cher ami, chère Florence, avant de vous poser quelques questions, je voudrais vous citer une jolie phrase de La Bruyère. Quand une lecture vous élève l'esprit et qu'elle vous inspire, ne cherchez pas une autre règle pour juger de l'ouvrage, il est bon. Cette citation résume par un exceptionnel raccourci les années qu'il vous a fallu pour accéder aux dernières marches de la connaissance des exceptionnelles ressources patrimoniales de notre ville. Ce livre, vient de le rappeler notre directeur, Au fil de l'histoire des musées de Bordeaux, est un parcours sans faute. Il deviendra, dans les années qui vont suivre, un document de référence. Nous avons eu déjà certains échos. On en parlera plus tard, hein, très très vite. Dans un long périple, vous racontez l'histoire, les rencontres avec les conservateurs, les architectes, les écrivains, les esprits brillants, férus d'histoire antique ou moderne, les critiques d'art, vous verrez, les hommes de pouvoir, les professeurs émérites, les professionnels riches en décisions ou abondants en contradictions. Donc, à la lecture de ce long périple, vous apercevrez que c'est un long combat qu'il a fallu, et vous venez de le dire, à savoir que d'autres personnes ont voulu s'attacher à ce genre d'exercice. Personne n'a réussi. Aujourd'hui, c'est Florence Barutel. Un long combat pour s'approcher des endroits qui, avec le temps, s'étaient dispersés, de musée en musée, de dépôt en dépôt, en ignorant la bigarrure de leur culture et le bien fondé de rassembler l'objet si chèrement convoité en un lieu unique. Grâce à l'objet de culture, vous avez remonté le temps. Je répète, grâce à l'objet de culture, vous avez remonté le temps. Cet objet de culture, et vous vous en apercevrez à la lecture de ce magnifique livre, si souvent peu considéré. Je crois que je vous repasse la parole. Vous avez là les premières questions à poser ?
Non, c'est vous.
Ah, c'est moi. Alors, chère Florence, dites-moi quel a été l'élément détonateur qui vous a inspiré et qui vous a donné l'idée d'écrire cette belle histoire.
Bien, mais je dirais que, en fait, tu as commencé quand François Hubert donc, m'a demandé, dans le cadre de mon master, donc, m'a demandé d'aller faire une recherche aux archives municipales sur le musée colonial, donc établissement qui m'était totalement inconnu et qui se situait, donc, disons, dans la première partie du XXe siècle sur la terrasse du jardin public à Bordeaux. Donc je dirais que j'ai été rapidement frustrée parce qu'en réalité j'ai trouvé peu d'éléments concernant le musée lui-même, pas de documents iconographiques au grand dam de François Hubert. Et très vite donc je me suis posé la question de savoir qu'étaient devenues ces collections une fois que le musée donc, a fermé à la fin des années 1930. Et il est vrai que la fin de son histoire était très peu documentée. Donc, c'est le premier point. Ensuite, bien évidemment, je me suis intéressée à l'histoire du musée d'Aquitaine. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en définitive, elle n'était pas écrite. J'ai été confrontée à des noms, soit de lieux, musée d'armes, musée Carrère, musée lapidaire, musée Bonny, ou à des noms de personnages, donc par exemple Nicolas Dupré de Saint-Maur, Pierre Sensas, Camille de Mansignac ou encore Paul Courteau, et sans que, quel était le lien en fait entre tous ces noms de lieux et de personnages et le musée d'Aquitaine. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième élément. Et puis, quand on commence à être un petit peu familier du musée d'Aquitaine, on se demande s'il a toujours été installé dans ce qui est, il ne faut pas l'oublier, l'ancienne faculté des sciences et des lettres de Bordeaux, voilà, que les Bordelais de plus de 60 ans ont fréquenté pour la plupart. Et donc, est-ce qu'avant, il était dans un autre lieu? Comment tous les objets qui y sont aujourd'hui présentés sont arrivés? Donc, je ne parle pas de leur origine géographique, bien sûr, mais est-ce qu'avant, ils étaient dans d'autres lieux et comment sont-ils arrivés là? Donc, voilà un petit peu l'état d'esprit dans lequel je me trouvais et je commençais à m'intéresser fort à cette histoire pour essayer d'en reconstituer le fil. J'ai donc commencé à rassembler une documentation personnelle. C'est là que très vite, je me suis rendu compte qu'en définitive, tous les musées actuels de Bordeaux avaient une origine commune. Et ensuite, je dirais que j'ai été aidée par des hasards heureux, je dirais, et notamment donc dans une bourse de cartes postales anciennes, donc j'ai trouvé tout d'abord deux vues de l'intérieur du musée colonial, donc ça c'était déjà très excitant, et par la suite une vue extérieure donc qui confirmait, qui précisait l'endroit sur lequel le musée colonial avait été installé au jardin public. Voilà, donc tout est parti de là. Et ensuite, donc, si vous voulez, j'ai repris à titre personnel cette fois des recherches aux archives municipales. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les collections du musée colonial, après sa fermeture, avaient tout d'abord été transférées dans le musée Carrère, donc qui était installé dans le château Carrère. Donc pour vous le situer, ça se situait puisqu'il a été détruit donc à la fin des années 60, non loin de Charles Perrins et sur ce qui est l'actuel domaine universitaire de Bordeaux 2. Donc du jardin public, donc ces collections ont été au château Carrère. Ensuite, bien des années plus tard, je suis là déjà en 1950, elles ont été transférées dans ce qui est l'actuel aile nord du musée de peinture. Du musée de peinture, elles ont été transférées dans le musée Bonny, c'est vrai que je n'ai pas cité tout à l'heure, donc qui est qui a été aussi détruit donc au milieu des années 80. Et donc, de ce musée Bonny, elles ont été transférées dans plusieurs dépôts de la ville, donc réparties un petit peu partout. Et finalement, donc au milieu des années 80, elles ont réintégré le musée d'Aquitaine. Voilà. Donc voilà, c'est pour vous illustrer un petit peu une des spécificités, je crois, de Bordeaux. C'est-à-dire que depuis toujours, on a eu l'ambition de rassembler les collections municipales dans un seul et même endroit. Et pour diverses raisons, bon, qu'il serait trop long de développer ici, mais donc que j'aborde dans mon ouvrage, que ce soit des raisons historiques, financières ou de priorité de construction et d'investissement. Donc, ça ne s'est jamais fait. Et donc, les collections, bien entendu, se sont particulièrement étoffées, notamment au cours de la seconde moitié du 19e siècle et également au début du 20e. Et donc, ça a posé, évidemment, des problèmes.
Mais alors, on reprend parce que vous évoquez surtout le musée colonial, mais le musée Carrère, mais il y a eu bien d'autres musées. Et la question, enfin, il me semble, qui est importante à Bordeaux par rapport à toutes les autres villes, c'est qu'ici, on a des musées ou en tout cas des collections rassemblées depuis bien plus longtemps, puisque dans la plupart des villes de France, ça commence après la Révolution, plutôt au milieu du 19e siècle. Ici, si on vous suit, on commence au 16e.
Oui, disons que en fait, cette histoire est...
Mais elle en parle dans son livre, à partir du 16e siècle.
Oui, la toute fin, hein, la toute fin vraiment du 16e siècle, début du 17e. Donc, effectivement, tout, on peut dire que l'histoire a commencé là.
On peut dire que Montaigne a vu déjà une partie de nos collections.
Oui, tout à fait. Et donc, ça a commencé, en fait, avec l'exposition de 5 antiques, conformément d'ailleurs à la volonté, c'est important de le souligner quand même, du maire et des jurats de l'époque, dans l'ancien hôtel de ville. Donc, l'ancien hôtel de ville qui, vous le savez sans doute, se situait, donc, enfin, jouxtait plus exactement la grosse cloche, qui est en fait un vestige de la porte Saint-Éloi. Et donc, ces 5 antiques, pour vous illustrer rapidement ce dont il s'agissait, donc en fait, il y avait 3 statues impériale en marbre blanc qui avait été découverte précisément en 1594, donc dans le quartier qui se situe à l'heure actuelle entre, je dirais, la rue judaïque et la rue du Château d'Eau. Et puis, indépendamment de ces 3 statues dites de Drusus, de Claude et de Messaline, c'est important d'avoir ces noms-là parce qu'on les a longtemps identifiés sous cette dénomination. Il y avait donc l'hôtel des Biturriges Vivisques, donc, qui est une pièce emblématique de l'histoire de Bordeaux, puisque c'est la plus ancienne pièce qui fait mention des Biturriges Vivisques, qui, comme vous le savez, sont à l'origine de la fondation de Bordeaux. Et la 5e pièce est en fait une inscription funéraire qui malheureusement a été perdue à la fin du 18e siècle. Donc ça, en fait, ce sont les prémices. Hein. Le véritable premier musée d'antique, d'ailleurs, à Bordeaux, donc, a été fondé grâce à Nicolas Dupré de Saint-Maur, donc directeur de l'Académie royale à l'époque, donc des sciences et arts de Bordeaux, et qui était également à l'époque intendant de Guyenne, et qui donc possédait déjà une collection personnelle, dans le sens où lors de la construction du nouvel hôtel de l'intendance, il avait été trouvé une 30aine d'inscriptions. Et donc, à ces inscriptions, il voulait adjoindre justement le fameux hôtel des Biturriges Vivisques. Donc, il en a fait la demande au maire et au jurat, et qui ont rapidement accédé à sa requête. Et c'est ainsi que donc l'Académie de Bordeaux a installé dans l'hôtel Jean-Jacques Bel, qui était donc sa propriété, le muséum d'antique destiné à abriter les vestiges de la cité de Bordeaux. Et tout est parti de là, en définitive.
Voilà. Et ce musée n'était pas ouvert au public encore.
Non, c'était...
Alors, j'en profite pour rebondir, parce que nous avons devant Hélène de Bellin, qui vient d'arriver, qui est l'archiviste actuelle de l'Académie des sciences Belles-Lettres de Bordeaux, qui a ouvert ses portes, à un moment donné, Florence avait besoin de prendre d'avoir des éléments historiques et notamment d'aller photographier un tableau. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Donc, merci Hélène. Voilà.
Voilà, bon.
Dans l'hôtel des Bituris, il est au musée maintenant.
Voilà.
Mais Messaline, elle est où ?
Ah oui, alors.
Oui, Messaline.
Oui, Messaline. Ah oui. Alors, Messaline, vous savez, la tyrannique épouse de l'empereur Claude. Donc, effectivement, cette statue, selon les contemporains, était absolument magnifique et elle a beaucoup marqué, effectivement, les esprits. Tant et si bien que Louis XIV, qui recherchait donc des pièces antiques exceptionnelles pour orner Versailles, en fit la demande au Jura, qui bien entendu l'ont accepté. Et c'est ainsi qu'en 1686, donc, la Messaline fut embarquée sur un vaisseau pour rejoindre donc, sa prestigieuse destination. Malheureusement, le navire fit naufrage en face donc, de la cité de Blaye et donc elle repose a priori depuis toujours au fond de l'estuaire. Donc avis aux amateurs, je crois que depuis certaines statues antiques ont été remontées dans l'estuaire, mais à ma connaissance, il n'y a pas eu encore de Messaline, donc il est permis d'espérer.
Moi, je crois que les marins bordelais ont fait exprès. Comme il n'aimait pas Louis XIV.
On dit aussi à Bordeaux qu'elle est dans un salon.
Ah. C'est qui ? La question.
On ne sait pas. Donc,
La question est ouverte.
Donc, mais après la Révolution, donc, puisque l'Académie est dissoute, l'Académie
voilà,
royale, donc, que deviennent les collections ? Voilà,
donc, l'Académie, effectivement, a été dissoute, comme toutes les sociétés savantes, en 1793. Donc, le muséum, son hôtel particulier et la bibliothèque, puisqu'il y avait une très importante bibliothèque, ont été saisies. Et donc, l'endroit est devenu patrimoine national. Et si vous voulez, c'est à ce moment-là qu'il a été décidé d'y installer donc, la Bibliothèque nationale du département, puisqu'on crée donc, des bibliothèques publiques. Et parallèlement à ça, se mettait en place aussi l'organisation de l'instruction publique. Et qui nécessitait donc, je dirais, des outils d'enseignement, à savoir une bibliothèque, un cabinet d'histoire naturelle, un cabinet d'antique, un cabinet de physique, une galerie de tableaux, etc. Et donc, c'est ainsi que finalement, l'hôtel Jean-Jacques Bel a été choisi, en fait, pour y regrouper l'ensemble de ces instruments pédagogiques. Et donc, il a été rétrocédé en 1803 à la ville de Bordeaux, et c'est ainsi qu'en fait est née la Bibliothèque municipale de Bordeaux, et puis la galerie de tableaux. Oui, alors ça, je ne l'ai pas évoqué, donc je vais essayer d'en dire deux mots très très rapidement. Donc, à la Révolution, comme vous le savez sûrement, donc nombre de biens ont été saisis, que ce soit en France ou également à l'étranger. Et donc ont été créés en province un certain nombre de dépôts où ces objets donc, ont été stockés. Et puis, les galeries du Louvre, qui sont devenues musée public en 1793, donc ont vu affluer nombre d'objets d'une façon colossale. Et il était hors de question, bien évidemment, que le Louvre puisse accueillir et exposer tous ces objets. Donc, suite à ça, il a été décidé en 1801 de créer des musées dans 15 villes de province, dont Bordeaux. Mais enfin, je tiens à préciser qu'il s'agissait essentiellement de galeries de tableaux. Et effectivement, donc, à partir de 1803, le Louvre a adressé donc, à Bordeaux un certain nombre de tableaux. Et donc, oui, alors ce que j'ai oublié de dire, c'est que l'État souhaitait qu'il y ait une galerie adaptée pour les recevoir. Et c'est pour ça qu'on a décidé que cette galerie serait installée dans l'hôtel Jean-Jacques Bel. Voilà. Donc, vous voyez que toutes les collections étaient regroupées en ce lieu. Alors, je dirais qu'elles étaient sous la responsabilité, il faut que je précise ça également, donc, depuis 1796, donc, du bibliothécaire Jean-Baptiste Montballon, qui avait en fait voilà, qui veillait sur toutes ces collections, donc non seulement les livres, mais également les antiques, les objets d'histoire naturelle. Et d'ailleurs, on lui doit d'avoir reconstitué une partie du muséum de l'Académie, puisque des pièces avaient été dispersées pendant la Révolution. Et donc, il s'est chargé lui-même d'en récupérer plusieurs, et d'ailleurs dans des endroits aussi incongrus qu'une grange ou qu'une écurie. Donc, vous voyez que quand même, il était tout à fait consciencieux et à même de rassembler ce patrimoine local. Et bien évidemment, le lieu n'était en aucune façon aménagé pour recevoir la galerie de tableaux, pour y aménager correctement la bibliothèque. Donc tout ça regorgeait d'objets et il ne cessait donc d'alerter les autorités municipales pour que cela soit fait. Et donc, je dirais que ces demandes sont restées vaines jusqu'à l'élection à la mairie de Bordeaux du comte Jean-Baptiste Lynch en 1809, donc qui a accédé à sa demande et qui a permis donc d'aménager dignement l'ancien hôtel de l'Académie pour constituer donc une bibliothèque, une galerie de tableaux et un cabinet d'antiques. Voilà, donc si vous voulez, il a décidé, donc très précisément en 1810 d'ailleurs, que le nom de musée de la ville de Bordeaux serait attribué à l'ensemble de tous ces établissements scientifiques et littéraires, à savoir donc la bibliothèque, j'essaie de ne pas en oublier, donc le cabinet des antiques, la galerie de tableaux, le cabinet d'histoire naturelle, un observatoire, puisque l'Académie avait fait construire dans son hôtel un observatoire au milieu du XVIIIe siècle, et également l'école de dessin. Voilà. Donc tout ça dans un souci d'instruction publique qui est...
D'accord, mais dans votre livre, après, il y a plein d'autres musées qui apparaissent, musées de préhistoire, musées d'armes, enfin, multitude de musées, donc ceux-là, ils apparaissent tout le temps.
Tout à fait. Alors ça, je dirais que le 19e siècle est le siècle des musées, par définition en France et à Bordeaux également. Et je dirais qu'il va y avoir un accroissement, enfin, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, extrêmement important des collections, disons, entre le milieu du 19e et le milieu du 20e siècle. Accroissement des collections qui va être dû bien sûr à des achats de la ville. Par exemple, le musée d'armes est né de l'achat de la ville d'une collection d'armes à monsieur Micole. Ensuite, ce musée va très très rapidement voir sa vocation s'élargir en musée d'armes et d'objets anciens, puisque la ville va à nouveau acheter une collection donc au père du célèbre architecte Charles Durand, qui a construit d'ailleurs la faculté des sciences et des lettres, où est aujourd'hui du musée d'Aquitaine. Donc cette collection comportait des armes, c'est pourquoi la ville s'était orientée vers son achat dans un premier temps, mais pas uniquement. Elle comportait également des meubles et de nombreux objets anciens. Donc ça, c'est une chose. Donc ce sont les achats. Ensuite, il y a eu également des dons extrêmement conséquents de Bordelais. Donc je citerai par exemple celui de Jean-Ernest Godard. Donc Jean-Ernest Godard, donc médecin de formation bordelais. Bon, j'ai pas le temps de présenter plus le personnage.
Ils découvriront.
Voilà. Hein, ils découvriront dans le livre.
Dans le livre, absolument.
Il a légué à la ville de Bordeaux donc, une collection égyptienne de plus de 700 objets, tout à fait exceptionnels, par exemple. Et ainsi, on pourrait continuer. Donc, musée d'armes d'objets anciens, qu'est-ce que je pourrais dire? Donc,
musée, il est bien... Carrère, musée naval,
Oui, alors on va pas s'en sortir. Alors, il est bien évident qu'indépendamment, je dirais, des objets de taille relativement modeste, donc il y a eu également de très grands travaux d'urbanisme dans la ville de Bordeaux au cours du XVIIIe siècle, et que bien évidemment, à chacun de ces travaux, on mettait au jour un certain nombre de pièces archéologiques, alors cette fois-ci de taille plus ou moins conséquente, et que ce qu'on appelle les collections lapidaires de la ville se sont accrues de façon extrêmement importante. Donc si vous voulez, tout est resté concentré dans l'hôtel Jean-Jacques Bel jusqu'à la fin du 19e siècle, hormis la galerie des tableaux qui a émigré assez rapidement dans les années 1820, mais je n'ai pas le temps de raconter son histoire là non plus, mais qui a migré dans l'hôtel de ville au Palais Rohan et qui ne prendra possession, enfin qui ne sera installé, je dirais, dans les deux ailes où le musée des Beaux-Arts est toujours aujourd'hui, qu'à la fin du 19e siècle. Voilà, mais autrement, effectivement, ces musées, je veux dire, il ne faut pas voir, quand on dit ces noms, musée d'armes et d'objets anciens, il n'y avait pas forcément un lieu attaché, si vous voulez, c'était des entités sur le papier, et tout ça restait dans l'hôtel Jean-Jacques Bel jusqu'à la fin du 19e siècle, avant que... Les collections lapidaires ne soient, elles, installées confortablement dans ce qui est l'ancien couvent des Dominicains rue Mably. Et je dirais que la majorité des autres collections ont été transférées à Carrère, donc au château Carrère, donc au rez-de-chaussée du corps de logis principal. Donc là, effectivement, il y a eu une exposition, mais il y a beaucoup de pièces, beaucoup de collections qui sont restées aussi en caisse pendant des années. Voilà, j'espère que je suis claire, parce que c'est très, très difficile
de raconter
cette histoire qui est extrêmement compliquée en aussi peu de temps que nous en avons.
Vous verrez, elle est aussi bavarde que son livre. C'est génial.
Non, l'autre question moi, que je voulais évoquer, c'est quand même... on a l'impression, avec ce que vous dites, qu'il y a énormément de collections, ce qui est vrai que même la ville de Bordeaux produit plus de collections qu'elle ne peut en gérer, puisque tout au long du 19e siècle, et je ne parle pas d'aujourd'hui, on a des conservateurs, des présidents de sociétés archéologiques qui écrivent aux maires pour dire « il nous faut de la place, il nous faut un musée », et on ne voit jamais ces musées arriver, sauf
tout à fait.
Peut-être au milieu du 20e.
Milieu du 20e, allons-y carrément. Donc on va passer très rapidement maintenant après la Seconde Guerre mondiale, et puis on va peut-être un petit peu davantage évoquer la genèse du musée d'Aquitaine en tant que tel, hein, puisque c'est quand même une chose essentielle. Donc il faut savoir que tout est parti de l'arrivée de Louis Valency en 1960 à Bordeaux. Donc le musée lapidaire était toujours installé dans le cloître et les galeries de l'ancien couvent des Dominicains, mais avait subi d'importants dommages liés à la guerre. Et donc, Louis Valency, en fait, est arrivé à Bordeaux pour constituer un véritable musée archéologique, donc à partir, bien sûr, de cet ancien musée lapidaire, mais également d'autres collections. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on lui a attribué ce qui est aujourd'hui l'aile sud du musée des Beaux-Arts. Et le musée des Beaux-Arts, entre guillemets, était cantonné dans l'aile nord. Alors évidemment, c'était un petit peu compliqué parce que ni l'un ni l'autre n'avait suffisamment de place. Donc, bien entendu, on a dit on va construire un grand musée à Bordeaux pour réunir toutes ces collections. Et donc, au début des années 60, le maire de Bordeaux, Jacques Chaban-Delmas, souhaitait édifier un véritable palais de la culture qui regroupait donc non seulement le musée des Beaux-Arts, donc le musée archéologique. Effectivement, qui va très rapidement voir sa vocation élargir en musée d'Aquitaine, j'y reviendrai très bientôt. Et puis, même un musée regroupant les collections d'origine d'ethnographie extra-européenne, de la ville. Voilà, donc ça, le projet était de faire quelque chose assez près de la mairie, en centre-ville. Donc, on envisageait au début des années 60 le quartier de Mériadec. Bon, puis finalement, on ne savait pas trop. Il y a des projets qui ont été faits, qui ont été dessinés. Et donc, Louis Valency a dit pourquoi ne pas installer le musée d'Aquitaine dans ce qui est aujourd'hui le musée des Beaux-Arts, c'est-à-dire dans l'aile sud, dans l'aile nord, et puis dans la galerie des Beaux-Arts. Mais évidemment, la place était insuffisante, donc il fallait agrandir. Et ce qui suggérait, c'était de relier donc les deux ailes par une galerie souterraine qui s'ouvrait sur une très grande salle de réserve souterraine. Donc, ce projet n'a pas été approuvé parce que, en effet, s'il est possible de creuser le sous-sol à Bordeaux, bon, ça génère tellement de coûts, de surcoûts, que finalement, c'était aussi simple de construire un nouveau bâtiment. Alors, en fait, en 1966, donc. Les gens, toutes les personnes concernées, c'est-à-dire la municipalité, l'État, les conservateurs, se sont réunis donc pour examiner de plus près la question. Donc on a à nouveau exposé le projet que je viens de citer auparavant. Donc on a examiné aussi une possibilité du côté du jardin public, puisque étaient à vendre deux immeubles, dont notamment l'hôtel Calvé, dans lequel siège aujourd'hui l'Académie, et puis un autre immeuble. Mais là, bon, ben, c'est pas pareil, ça suffisait pas, il y avait pas assez de place, il fallait envisager des expropriations, puis sur le plan architectural c'était très compliqué. Donc finalement, ben oui, on a dit il vaut mieux construire un bâtiment neuf. Alors où construire ce bâtiment neuf? Alors, Mériadec, finalement, on laissait un petit peu tomber parce que avec la rénovation du quartier, les prix avaient énormément augmenté. En revanche, à Bordeaux-Nord, la mairie possédait des terrains, donc il y avait beaucoup de place. On était en train de réaménager complètement ce quartier. Et on a dit, ben, c'est très bien, on va pouvoir à la fois régler la question du musée des Beaux-Arts et celle du musée d'Aquitaine. Et là, on va construire vraiment un très grand musée. Donc, alors, je vais revenir sur l'élargissement donc de la vocation du musée archéologique qui s'est faite très rapidement, hein, puisqu'en 1963, donc, il a pris officiellement la dénomination du musée d'Aquitaine. Et donc, l'élargissement, si vous voulez, de cette vocation s'est fait notamment sur l'influence d'un grand personnage que certains connaissent peut-être de nom, qui est Georges-Henri Rivière, qui est une figure très importante de la muséologie internationale. Donc, pour vous le situer très brièvement, je dirais que c'est lui qui a fondé en 1937 le Musée national des arts et traditions populaires, donc musée qui avait vocation à collecter la mémoire de la société traditionnelle, donc qui commençait à disparaître et dont la disparition s'est accélérée après la guerre. Ce musée donc a fermé en 2005 et, si vous voulez, il s'est fondu dans ce qui est aujourd'hui le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, autrement dit le MUCEM à Marseille. Donc Georges-Henri Rivière, voilà, c'est ça d'un côté. Et de l'autre côté, c'est quelqu'un qui a eu un rôle très important au niveau du Conseil international des musées. Donc c'est une association non gouvernementale qui regroupe des professionnels de musées sous l'égide de l'UNESCO et qui a pour but toujours d'ailleurs d'aider les institutions muséales de par le monde à valoriser leur patrimoine. Et donc Georges-Henri Rivière, il faut savoir, en a été le directeur de 1951 à 1965. Voilà, c'est vraiment un personnage incontournable. Et donc, très rapidement, il faut savoir donc son projet dès 1940, indépendamment du Musée national des arts et traditions populaires, donc basé en région parisienne, c'était de constituer en région un réseau de musées destiné à valoriser donc les particularités locales. Voilà. Et si vous voulez, donc, c'est dans ce cadre-là que a été élargie la vocation donc du musée archéologique en musée d'Aquitaine, donc destiné à présenter l'histoire culturelle de la région, dont Bordeaux et la métropole, et donc de traiter de l'archéologie à l'ethnographie, et ce de la préhistoire jusqu'à l'époque contemporaine, donc quelque chose de tout à fait conséquent. Et pour ça, il a fallu beaucoup travailler, parce que quand Louis Valency est arrivé, bon, il n'avait rien. Il avait cet aile sud, les collections réparties un peu partout, pas de personnel. Enfin, c'est vrai que c'est difficile de se rendre compte du chemin parcouru entre ce début des années 60 et l'ouverture définitive du musée d'Aquitaine.
Vous avez parlé du projet Bordeaux-Nord.
Oui.
Ce qu'il faut dire, c'était que ce grand musée.
Oui, j'ai pas fini. Voilà. Alors, j'en revenais.
Il aurait été installé au bord du lac. Donc ça veut dire qu'on n'aurait absolument personne aujourd'hui. On pourrait fermer les musées. Donc heureusement que ça ne s'est pas fait.
Voilà, donc,
donc comment on passe à la fac, justement ?
Donc ça ne s'est pas fait pour des raisons essentiellement financières. Donc le projet était extrêmement ambitieux. Et d'ailleurs, enfin je ne sais pas, mais à ma connaissance, c'était extrêmement rare de voir un projet muséal qui prenait en compte l'accroissement des collections. C'est-à-dire que les architectes avaient envisagé de rajouter des modules architecturaux au fur et à mesure de... Rendez-vous compte. Hein, voilà. Puis c'était vraiment très important. Pour vous dire, il avait été prévu un appartement pour le conservateur de 200 mètres carrés, n'est-ce pas ? Avec une terrasse, voilà, avec vue sur le lac. Non, c'était vrai. C'était vraiment très important. Et alors, ce que je tiens aussi à préciser, c'est donc en fait, il y avait deux bâtiments indépendants pour le musée, un pour le musée d'Aquitaine, un pour le musée des Beaux-Arts, qu'en revanche, il y avait une structure commune avec des salles d'exposition, une salle de conférence, une cafétéria. Enfin, vous voyez, c'était. Et tout ça dans un parc paysager aménagé. Enfin, c'était quelque chose de formidable. Et en effet, donc, ça n'a pas été mené à son terme, bon, essentiellement pour des raisons financières et parce que, effectivement, dans le coût du projet, n'avait pas été. On n'avait pas mis dans le coût du projet, je dirais, la nécessité, effectivement, quelle que soit la hauteur de l'édifice, de pieux, hein, comme pour le stade aujourd'hui. Il faut des pieux là-bas. On est sur une zone marécageuse et il fallait également remplir le terrain. Bon, enfin bref, donc tout ça ne s'est pas fait. Et il faut savoir que, donc, au début des années 70, donc, la faculté des sciences et des lettres avait déjà en grande partie migré sur le campus de Talence. Et donc, le bâtiment appartenant à la ville, donc, on avait là un lieu qui se trouvait disponible. Enfin, disponible, tout est relatif, parce qu'il y avait un certain nombre d'institutions qui l'occupaient, notamment la communauté urbaine. Il y avait encore des structures universitaires, la bibliothèque interuniversitaire, l'Institut d'histoire de l'art. Et donc, ça a été également extrêmement compliqué de faire évacuer tous ces organismes. Il fallait qu'ils trouvent une solution de repli pour y installer le musée d'Aquitaine. Et c'est pour ça que ça a été aussi long, cette idée. Le musée d'Aquitaine, il a ouvert en deux temps. Donc, il a ouvert le premier étage qui s'étendait donc de 1715, donc la fin du règne de Louis XIV, merci, à l'époque contemporaine, donc en janvier 1987. Et donc le niveau du rez-de-chaussée qui concernait donc toute la période depuis la préhistoire jusqu'à 1715 a ouvert donc en juin 1991. Voilà.
Très bien, très très bien. De plus, avec ce parcours que vous venez d'entendre, qui est tout à fait intéressant et très précis, vous avez en plus dans ce livre des explications supplémentaires sur les différentes biographies des personnages illustres que vous avez rencontrés, si je puis dire,
tout à fait.
Au cours de vos recherches.
Voilà. Oui, absolument.
Et donc des explications qui sont très riches, des détails, des anecdotes, et je pense que là aussi c'est pour ça que nous disons que c'est un livre de référence, parce que quand vous allez chercher, savoir si on vous dit « bon, parlez-moi de Jean-Ernest Godard », hop, vous allez trouver la vie, j'allais dire, et l'œuvre de Jean-Baptiste Godard, de Pierre Sansas, de Jules Delpy, ou de Louis Valency, enfin tous les personnages que vous avez côtoyés, si je peux me permettre de dire ainsi.
Oui, c'est
et
tout à fait
Bontemps,
le terme.
Et Camille Bontemps, de Messignac, etc. Camille Julien, Henri de la Ville de Miremont, enfin vraiment... des personnages qui sont des architectes, qui sont des conservateurs, qui sont des personnages qui ont vraiment servi et fait cette histoire que vous venez de raconter.
Oui, ça, je crois qu'en effet, c'est très important. Et il faut bien se rendre compte aujourd'hui que tout ce qu'on peut admirer, que ce soit au musée d'Aquitaine, au musée des Beaux-Arts ou au musée des arts décoratifs et du design, eh bien, on le doit à ces gens qui ont œuvré pendant des siècles pour vous le verrez si vous lisez mon livre, pour préserver ce patrimoine malgré toutes les vicissitudes. Et Dieu sait que ça n'a pas été facile, que les objets ont été baladés de musée en musée, de dépôt grand dépôt est soumis à bien des aléas. Donc vraiment, on leur doit un sérieux hommage.
Et en plus, vous avez une bibliographie qui est d'un sérieux tout à fait étonnant. Vous n'avez oublié personne.
Ah ça, j'ai sûrement oublié.
Souvent, quand on décrit des livres d'histoire, on fait référence à d'autres livres qui sont sortis, qui ont été édités. Et là, il y a trois pages de tous les écrivains, les historiens que vous avez cités. Je trouve ça très bien. Donc vraiment, c'est un livre. Et je comprends pourquoi... notre ami l'éditeur Bernard Larieux est tout à fait séduit et des éditions d'Entre-deux-Mers a été séduit pour réaliser le livre que vous avez devant vous.